Audiolib présente La Cité des Lames, le deuxième tome de la série Les Cités Divines, de Robert Jackson Bennett. Traduit de l'anglais par Laurent-Philibert Kaya. Lu par Marie Bouvier. Pour Sœur Terry, qui a écrit directement sur mon cœur. Et pour Nana, qui était une source inépuisable de livres. Chapitre 1. Faites que ça compte. Il leur dit « La vie est mort, et la mort est vie. » Verser le sang dévoile la plus sacrée des transitions, les fibres entrelacées du monde, le flux hurlant de la vie jusqu'à la pourriture et à la cendre. Vous qui menez ces guerres, qui devenez ces épées, elle vous absoudra et vous tiendra pour saint parmi les saints. Et vous vivrez éternellement en sa compagnie, dans la cité des lames. Et il chanta « Traversez les eaux, mes enfants, vers les rivages les plus blancs, les pèlerins sereins. Une longue obscurité vous attend dans l'ombre de Vortia. » Extrait de la grande mer Vortia au sommet des Dents du Monde, environ 556. Autour du cinquième kilomètre de piste dans la montagne, Pitri Souturachny conclut que le soleil javrassien n'est pas chaud et relaxant, contrairement à ce que promettent les réclames. Pas plus qu'il ne qualifierait le vent de « fraîche caresse sur les épaules ». Et il n'estime absolument pas les forêts fragrantes et exotiques. En fait, tout en s'épongeant le front pour la 20e fois, il songe qu'il désignerait le soleil comme un brasier infernal, le vent un mirage inexistant, et les forêts comme grouillantes de choses qui possèdent beaucoup trop de dents et rêvent de les planter dans un corps humain. La vue de la petite taverne, au sommet de la colline, lui arrache presque des larmes de soulagement. Il ajuste sa sacoche et titube vers la cahute misérable. Il n'est pas étonné de la trouver presque déserte, à l'exception du propriétaire et de deux de ses amis. Ici, sur l'île touristique de Javrat, la vie est discrète et lente. Pitri mendie un verre d'eau, et le propriétaire, suintant de condescendance, s'exécute sans se presser. Les quelques drekels que Pitri lui laisse ne réussissent qu'à encore décupler son mépris.
« Je me demandais si vous pouviez m'aider, » dit Pitri.
« C'est ce que je viens de faire, » rétorque l'homme en désignant le verre d'eau.
« Oui, certes, et je vous en remercie, mais j'essaie de trouver quelqu'un, une amie. »
Le tavernier et ses deux compères le toisent, imperturbable et impassible.
« Je cherche ma tante, » poursuit Pitri. « Elle s'est installée ici après un accident à Galadèche, et je lui apporte la compensation que la cour a mis un certain temps à ordonner. »
L'un des camarades du tavernier, un jeune homme nanti d'un formidable mono-sourcil, promène un regard sur la sacoche de Pitri.
« Vous transportez de l'argent, là ?»«
Oh, en fait, non. »
dit Pitri en s'efforçant frénétiquement de s'inventer une meilleure couverture.
« Parmi toutes les choses que Chara m'a inculquées, » se demande-t-il, « pourquoi ne m'a-t-elle pas appris à mentir ?»« Ce ne sont que les coordonnées du compte et les instructions du versement. »«
C'est une façon d'obtenir de l'argent, alors, »
comprend l'autre compagnon, dont la bouche se perd dans une forêt de barbe mal taillée.
« Bref, ma tante, » reprend Pitri, fait environ cette taille.
Il lève le bras.
Elle a la cinquantaine. Elle est très, comment dire, forte.
Grosse, propose le tavernier.
Non, pas vraiment. Elle est...
Il plie le bras pour figurer un biceps conséquent qui lui fait cruellement défaut.
Costaude.